Bon, chacun, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour se souvenir de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a fait des grandes choses pour nous, puis on se lasse pas de se répéter ces choses-là, de se souvenir de ces choses-là, parce que, un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, hein, quand ils ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'en chemin, ils nous expliquaient les Écritures », puis c'est merveilleux. Donc, ce matin, si vous voulez, on va aller dans Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe au chapitre 9, puis on va parler de différents titres du Seigneur Jésus-Christ. Puis vous savez, le Seigneur Jésus, il y a tellement de noms là qui sont utilisés pour le Seigneur Jésus. Puis les noms du Seigneur Jésus sont nombreux à cause de ses nombreuses facettes. Les nombreuses facettes de sa personne, toutes ses gloires sont merveilleuses. Puis... c'est ça que c'est les titres qui lui sont donnés, les noms qui lui sont donnés, eh bien, c'est des noms qui reflètent des différentes facettes de sa gloire. Puis, on va regarder ce matin le Seigneur Jésus comme le Fils, mais il y a différents termes. Il est appelé le Fils, mais de Dieu, le Fils d'Adam, le Fils de l'homme, le Fils d'Abraham, le Fils de David. Puis, on va regarder ça un petit peu un matin pour regarder la gloire du Seigneur Jésus. Donc, premièrement, on va aller dans Ésaïe au chapitre 9. On va regarder le verset 5. Ésaïe qui a fait une prophétie d'avance avant que cela arrive. Puis, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il est venu, il avait été déjà annoncé d'avance. Il est venu selon les Écritures. Puis, les Écritures rendaient témoignage de celui qui était venu ici sur la terre. Donc, en Ésaïe 9, au verset 5, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donc, je vais attirer votre attention sur « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Donc, on va aller dans Luc au chapitre 3, 38. Luc au chapitre 3 et le verset 38, on va lire ensemble. Donc, c'est dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. On voit ici, selon Marie, dans Luc, c'est selon Marie, parce que dans Matthieu, c'est selon Joseph. Mais Joseph était le père adoptif du Seigneur Jésus-Christ. C'était la lignée royale, mais à cause de Jéconia, il y avait eu une malédiction sur la lignée royale, puis que le Seigneur avait dit qu'il n'y avait aucun de ses fils qui s'assoirait sur le trône de David. Donc, ça brisait la promesse de Dieu qu'il y aurait toujours eu un fils sur le trône de David. Mais le Seigneur Jésus étant le père, le fils adoptif de Joseph, eh bien, lui, il est de la lignée royale, mais parce qu'il était, à cause de sa naissance virginale, il peut, lui, s'asseoir sur le trône de David, son père. Mais dans Luc, c'est la généalogie selon Marie. Mais on voit ici, au verset 38, on va pas tout lire la généalogie ce matin, mais on va lire la dernière étape de la généalogie qui dit « Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Donc, c'est la lignée de l'homme. Ici, c'est le fils de Seth, d'Adam, et Adam a été créé par Dieu de la poussière du sol. Donc, fils de Dieu. Donc, c'est le premier titre du Seigneur Jésus. On va aller maintenant dans Matthieu au chapitre 18. Matthieu au chapitre 18. Puis, on va voir ici, au verset 11. Matthieu 18, 11. Puis, le Seigneur Jésus qui parle de lui-même. Puis, le Seigneur Jésus utilisait souvent ce titre-là sur lui-même. On va le voir plus tard, mais il dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme. Donc, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. On va aller maintenant dans Matthieu au chapitre 1, oui, le verset 1, puis là, on est encore dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, mais ici, c'est la généalogie de Matthieu, qui est l'évangile qui concerne le royaume et qui parle du Seigneur Jésus-Christ, comme ici dans le verset 1. Pour la nation d'Israël, on voit que Abraham était le père de la nation, David était le roi de la nation. Et on voit ici au chapitre 1 et verset 1, il nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham ». Donc, deux titres du Seigneur Jésus-Christ qui est le fils d'Abraham et aussi le fils de David. C'est ce qu'on veut considérer ensemble ce matin. Regardez les facettes. Pourquoi il est appelé de ces différents noms-là, mais ça nous fait penser à des choses différentes concernant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, qu'il est le fils de Dieu. C'est quelque chose, le titre, le fils de Dieu, parce que il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a donné son Fils ici sur la terre. C'est Dieu lui-même qui a été manifesté pour nous apporter le salut. Donc, le Fils de Dieu ici, on a vu dans Ésaïe 9:5, il nous parle d'un enfant est né, car un enfant nous est né, puis nous, ben, ça implique que c'est en rapport avec nous, c'est pour nous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Le fait qu'il dit un fils nous est né, donc c'est ici, ça nous parle de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Il est né d'une femme, c'est quelque chose du fait que Dieu, qui a créé toutes choses, est pris cette place-là où il est né d'une femme. Un fils nous est né, un enfant, c'est-à-dire, c'est pas le fils, mais un enfant nous est né, c'est son humanité. Il est devenu un homme à ce moment-là, quelque chose qu'il n'était pas auparavant. Seigneur Jésus, il était Dieu dans le ciel de toute éternité avec son Père, mais maintenant, il a pris une forme humaine, comme notre frère nous a lu ce matin. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a paru comme un simple homme. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est devenu homme. Ça, c'est quelque chose. Un enfant nous est né. Mais tu sais, ensuite, quand il dit « un fils nous est donné », ça nous parle de sa divinité. Puis, c'est sûr que, historiquement, les gens qui ne peuvent pas nier que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, parce que l'histoire là, rapporte qu'il y a un homme qui est né à Bethléem, puis c'est Jésus qui, son nom veut dire « Dieu sauve ». Mais c'est le fait que c'est un fils, lui, qui n'est pas né, il est donné. C'est un fils qui est donné. L'enfant est né, mais le fils est donné. Ça nous parle de sa divinité, mais ça nous parle de sa préexistence avant Bethléem. C'est que le Seigneur Jésus existait de toute éternité. C'est le Dieu éternel qui n'a pas de commencement. C'est sûr que ça nous dépasse tout là, de penser à un Dieu éternel qui n'a pas de commencement, puis le monde ne peut pas recevoir ces choses-là. Nous, on le reçoit par la foi, parce que les choses de l'Esprit de Dieu, on les reçoit parce qu'on est né de nouveau spirituellement. On est entré en contact avec Dieu au niveau de l'Esprit, puis on croit sa parole, parce que sa parole est infaillible, sa parole est vraie. Donc, on sans comprendre l'éternité, on la reçoit par la foi. On sait que le Seigneur Jésus-Christ, avant de naître à Bethléem, existait de toute éternité. Donc, c'est le Fils éternel de Dieu. C'est celui qui a créé toutes choses, parce que si lui a créé toutes choses, il était avant la création. Donc, c'est lui qui est la source de cette création-là. Aussi, on l'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il y a un frère à Moncton qui parlait du Seigneur, puis il y a un gars qui était juste en face de chez eux. Puis lui, il était couché. Puis, à un moment donné, ça brossait pas mal l'autre bord. Puis, il avait appelé les polices, puis tout ça. Puis là, sa femme a dit, « Bien, tu devrais aller, la police va venir le chercher. Peut-être que tu devrais aller y parler du Seigneur avant que la police vienne le chercher. Ben, » il était couché dans son lit, puis c'est pas tellement. Tu arrives à quelque part, ça brosse, la chicane est pognée. Puis là, tu vas aller y parler du Seigneur. Ben, il s'est levé, puis il est allé. Ça fait que là, il a commencé à y parler du Seigneur. Puis il dit, « Seigneur, il n'a rien fait pour moi. » Mais il dit, fait que là, lui, il dit, ouais, il commence à lui parler, il dit, comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle Emmanuel. Il dit, c'est ton nom, il dit, ça veut dire que Dieu est parmi nous, ça que Dieu, il est venu pour toi. Là, il a parlé du Seigneur, puis après ça, la police l'a emmené. Puis il savait ça, que son nom, Emmanuel, voulait dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Il dit, c'est ça qu'il avait dit, il dit, Dieu n'est pas avec moi. Puis je pense qu'il avait dit ça parce qu'il réalisait que son nom était Dieu avec nous. Puis là, c'était drôle dans un sens, mais quand même, mais c'est quelque chose que Dieu est venu avec nous. Puis son nom, Jésus, veut dire Jéhovah sauve. C'est le salut de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu sauver. Dans Jean 8:58, le Seigneur a pu leur dire, puis ça les a frappés quand il leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Puis il n'a pas dit j'étais. Il a dit « Je suis », donc il est de toute éternité. Dieu, le Seigneur Jésus est toujours dans le présent, il est toujours existant, il a toujours existé. Puis dans Ésaïe 35, au verset 4, il avait dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » C'est quelque chose de penser que le Dieu d'éternité est venu lui-même, il n'a pas envoyé un ange. C'est sûr qu'il a envoyé beaucoup de prophètes pour parler au peuple, mais quand c'était la question de notre salut pour nous sauver, il n'y a nul autre qui pouvait le faire que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, manifesté dans la chair. Donc, si on manque le message à ce point-là, c'est sûr que les autres façons que le Seigneur est nommé, ça va diminuer en valeur. Parce que de réaliser la grandeur de celui qui est venu sur la terre, ça fait en sorte que ça donne une intensité aux autres parties qu'on va regarder ensemble. Puis quelqu'un avait dit que si plus que celui qui nous sert est grand en dignité, bien plus le service devient grand. Parce que quand on va au restaurant, puis la serveuse elle vient nous servir, bien, c'est normal. Mais imaginez-vous si c'était le premier ministre qui viendrait nous servir, là, ça serait différent, là. Mais c'est pour ça que le fait que le Seigneur Jésus est le Fils éternel de Dieu, créateur de toutes choses, qui est appelé le Fils de Dieu, est venu sur la terre, puis un Fils nous est donné. C'est pour nous. C'est Dieu le Père qui nous a envoyé son Fils sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés. Ensuite de ça, on voit qu'il est le Fils d'Adam. Il est appelé, comme on a vu, le fils d'Adam dans le Luc 3, 38. On a vu dans la généalogie à travers Marie que c'est le fils d'Enos, le fils de Seth et le fils d'Adam et le fils de Dieu. Donc, on remonte ici toute la généalogie humaine, puis on arrive jusqu'à la source de toute l'humanité. Eh bien, c'est le fils de Seth, le fils d'Adam. Le premier homme qui a existé sur la terre, Adam, que Dieu a formé de la poussière de la terre et qui a soufflé dans sa narine un souffle de vie, puis cette masse de poussière-là que Dieu avait formée est devenue une âme vivante. Puis c'est ça que le Seigneur Jésus, ici, ça parle vraiment ici de son incarnation. Le fait que le Seigneur Jésus a pris sur lui un corps de chair, qu'il a été formé, qu'il a eu un corps de chair. Son incarnation, c'est Dieu se faisant homme pour nous. C'est une humilité de devenir prendre la forme de sa créature. Le Seigneur Jésus, qui est de toute éternité, qui a créé l'homme, s'est fait lui-même homme. Puis, on sait qu'il a été accusé pendant son séjour sur la terre ici, à cause de ce que lui disait de lui-même. Il a été accusé d'être un homme qui se faisait Dieu. Toi qui es homme, ils ont voulu le lapider, puis ils disent, pourquoi vous voulez me lapider? Bien, c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais c'est vraiment le contraire qui est arrivé. C'est celui qui était Dieu, il s'est fait homme. Il s'est fait homme pour venir près de nous, là. Ça, c'était le contraire de ce qu'il était accusé dans Jean 10, 33, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais c'est quelque chose de penser à ça, hein, que Dieu s'est fait homme, qui a habité parmi nous. Mais c'est sûr qu'il a été fait homme de la même façon que nous autres. Il y a eu les souffrances, il a connu les choses qu'on connaît, sauf, naturellement, le péché. Parce que c'était impossible. Lui, c'était un homme, pas comme Adam. Adam est un homme innocent qui a péché, qui pouvait pécher. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est devenu un homme impeccable. Il était impeccable, puis le fait qu'il était impeccable, non seulement il était sans péché, mais c'était impossible qu'il pêche. Parce que c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Imaginez le Seigneur Jésus qui est la sainteté même, le Dieu trois fois saint, qui ne pouvait pas pécher. Donc, lui, il s'est fait homme. Mais quand on parle, le mot Adam, ça veut dire, on traduit parfois par vermeil. Vous savez, quand Goliath a demandé à un homme, Goliath s'est présenté devant l'armée d'Israël, puis il a dit, donnez-moi un homme pour qu'il vienne combattre avec moi, puis si lui me vint, bien, on va être vos serviteurs, mais si c'est moi qu'il vint, vous allez devenir nos serviteurs. Donc, c'était un combat. Puis, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait un homme. Donc, c'était pas, fallait que ce soit un homme qui vienne combattre contre lui. Puis, il est dit de David, parce que David était un enfant, dans un sens, mais quand David s'est approché, on dit qu'il avait son teint, il a vu en lui qu'il était vermeil. Puis, le mot vermeil traduit vraiment le mot Adam ici, là. C'est le mot Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire rouge. Ça veut dire rouge. Puis, il y a différents endroits qu'on veut, quand la bien-aimée ou celle qui était aimée, la Shulamite a décrit son bien-aimé, elle dit qu'il est vermeil. Donc, ça parle ici de son humanité. Il a pris le sang. C'est ça que ça veut dire, rouge, là, la couleur du sang, c'est rouge. Puis, c'est le fait que le Seigneur Jésus a pris l'humanité. Ça veut dire qu'il est un humain, qu'il est un individu de l'espèce, qui fait partie de l'humanité. Puis ça, c'est le Seigneur Jésus. Puis c'est sûr que c'est quelque chose de penser que le Seigneur Jésus naîtrait d'une femme, prendrait l'incarnation. Mais le mot Adam veut dire, il vient d'un mot qui veut dire montrer le sang. Vous savez, quand on est gêné, qu'est-ce qui arrive? On est dans une situation où on est gêné ou on est confus, qu'est-ce qui arrive? On devient rouge. Pourquoi qu'on devient rouge? Parce que c'est le sang qui nous montre au visage. Ça devient une évidence qu'on est un être humain. Parce que un être humain, si ce n'est pas un être humain, il ne viendra pas rouge. Un être humain montre le sang au visage, puis c'est ça que le mot Adam veut dire ici. Donc, il fallait qu'il devienne un homme. Très important, il fallait absolument l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, qu'il prenne la forme d'un homme, parce qu'il aurait jamais pu, on n'aurait jamais pu être sauvé. C'était évident. Dans Hébreux 10, au verset 4 à 5, il dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » L'incarnation était primordiale. C'était vraiment important que le Seigneur Jésus prenne un corps. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit un homme pour mourir sur la croix. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, tout le sang qui avait été versé dans l'Ancien Testament ne pouvait jamais ôter les péchés. C'est ce qu'on lit dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux 10, 12, il dit, « Lui, le Seigneur Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Donc, c'est ça, il a fallu que lui prenne un corps. Parce que c'était impossible que le sang des taureaux, il fallait que ce soit un homme qui meure sur la croix pour nos péchés, mais quel homme aurait pu mourir pour nous? On est tous des pécheurs. On ne peut pas donner la rançon pour les autres, on ne peut même pas donner la rançon pour nous-mêmes. Ça prenait un homme impeccable pour pouvoir mourir sur la croix pour nos péchés. Le seul sacrifice qui était au-dessus de tous les sacrifices des animaux, parce que c'était impossible, un animal ne pouvait pas mourir pour nous autres. C'était juste une préfiguration, une image pour nous montrer que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais ce n'était pas le sang des animaux puis des boucs. Donc, c'était son identification avec nous, fils d'Adam, c'est son identification avec la race humaine pour devenir le sauveur de la race humaine, celui qui pouvait, par son sang, payer la rançon pour nos péchés. Dans Hébreux 2, 14, 15, il dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Vous savez, la mort est venue à cause du péché. Puis la force du péché, la force de la mort, bien, c'est le péché, parce qu'on est tous des pécheurs. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus, lui, sans péché, un homme impeccable, est entré dans la mort. Et il nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Nous autres, on n'est pas obéissants. Là. Quand la mort vient, on n'a pas le choix. C'est pas parce qu'on est obéissant qu'on meurt. On meurt parce qu'on n'a pas le choix, la mort vient. Mais lui, il a dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Lui, il est mort volontairement. Lui, il a dit, malgré toutes les blessures qu'il avait eues, il a fallu qu'à un moment donné, il dise, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais il est venu dans le monde d'une façon vraiment unique. Il n'y a personne d'autre qui est venu dans le monde de la façon que le Seigneur Jésus est entré dans le monde. Vous savez, c'est là où on voit qu'il est, c'est pour ça qu'il est appelé la postérité de la femme. On ne parle pas comme ça d'habitude, on ne parle jamais de la postérité de la femme. Puis en dépit du féminisme aujourd'hui qui veut rendre les choses pareilles, qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, la parole de Dieu est claire qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Puis c'est dans le plan de Dieu. Mais le Seigneur Jésus est appelé la postérité de la femme. Pourquoi? Ben, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ, qui aussi était très importante, parce que l'homme, la postérité de l'homme, si on peut dire qu'Adam, c'est le père de toutes les morts, parce que lui, c'est lui qui a transmis la mort à cause du péché. À cause de son péché, Adam ne pouvait que transmettre la mort à sa postérité. Donc, on pourrait dire qu'Adam est le père de toutes les morts, mais ici, on a un autre, qui, lui, est la postérité de la femme. C'est sa naissance virginale. C'est pour ça qu'il nous est dit, Genèse 3:15, il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Celle-ci, ici, ce n'est pas la femme, mais c'est la postérité de la femme. C'est le Seigneur Jésus, celui qui est né d'une femme sans un homme. Ça, c'est quelque chose. Le Seigneur Jésus, il n'y a personne qui est né d'une femme sans un homme. Mais le Seigneur Jésus, lui, est né d'une femme sans un homme. Et il dit, celle-ci, cette postérité-là, t'écrasera la tête en parlant au serpent, et toi, tu vas lui blesser le talon. Puis ça nous parle de tout ce qui est arrivé à la croix du calvaire. L'ennemi qui a blessé le talon du Seigneur Jésus quand lui a écrasé la tête. Vous savez, la victoire là-dedans, ce n'est pas la blessure au talon. Le Seigneur a fallu qu'il souffre pour nous, mais en faisant, il a écrasé la tête du serpent. Ça, c'est la victoire finale. Vous savez, quand la tête est écrasée, eh bien, c'est la victoire totale. Mais la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ était très importante parce qu'il devait être sans péché. Oui, s'il était la postérité de l'homme, il serait né avec cette nature de péché, comme on est tous nés avec la nature de péché, mais lui, il est né sans cette nature de péché-là. Puis, c'était quelque chose pour Marie de se faire dire qu'elle allait avoir un enfant. Parce qu'elle dit dans Jean-Luc, au chapitre 1, au verset 34-35, Marie dit à l'ange, après avoir eu cette annonce-là, qu'elle allait donner naissance à un enfant, elle a dit, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Elle était une vierge. Elle n'avait jamais connu un homme dans le sens d'une relation physique. Donc, elle dit, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, c'est la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Et c'est pourquoi le Saint-Enfant. Donc, sans péché, la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ nous parle du fait qu'il est impeccable, qu'il n'a pas participé à cette nature de péché-là. Puis c'était important parce que s'il aurait participé à cette nature de péché-là avec nous, il n'aurait jamais pu être notre sauveur. Il n'aurait jamais pu s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Mais en même temps, il est appelé le deuxième homme. Ben, il y a eu Adam, puis il y en a eu plusieurs hommes. Mais ici, c'est le deuxième homme comme un différent qu'il est, parce qu'il est la tête fédérale. Adam est notre tête fédérale en tant que pécheur, hein, parce qu'on est tous des fils d'Adam. Mais le Seigneur Jésus, ici, donne un autre, un deuxième homme. Selon le premier homme, on est pécheur, puis on mérite le jugement, la mort éternelle, loin de la face de Dieu. Mais selon ce deuxième homme-là qui devient une deuxième tête pour ceux qui vont être sauvés, bien lui, c'est le deuxième homme d'une nouvelle création. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, « Ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Puis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on a besoin de sortir de cette situation-là qu'on était en Adam, des pécheurs sous la condamnation de Dieu, du jugement éternel, pour maintenant transférer dans une nouvelle création avec un différent chef de file. C'est le Seigneur Jésus maintenant, l'homme sans péché, lui qui était parfait, lui qui est l'auteur de la première création, mais aussi l'auteur de la deuxième création, parce qu'il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis ça, c'est merveilleux, c'est à cause du Seigneur Jésus, maintenant, on n'est plus, nous, notre chef de file, c'est plus Adam, mais c'est le Seigneur Jésus, le deuxième homme. Mais c'est que ceux qu'il allait sauver, il allait les transférer. On est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. On est passé du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Donc, c'est un transfert maintenant, ce fils d'Adam ici, mais comme deuxième homme sans péché, qui nous a sauvés, qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés, nous fait passer de la mort à la vie pour être avec lui pour l'éternité. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux. Mais en même temps, il nous est dit qu'il est le dernier Adam. Il n'est pas le deuxième Adam. Il est le deuxième homme, mais il est le dernier Adam. Puis ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça nous parle de quoi, le fait qu'il est le dernier Adam? C'est qu'il n'en aura pas besoin d'un autre. Parce que lui, il est la finalité. Il est le commencement et la fin. Il est l'auteur de notre salut, puis c'est celui qui va l'emmener à sa complétion. Puis ça, c'est tellement merveilleux, il n'y aura jamais besoin encore d'un sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort une fois pour toutes. Puis, ça veut dire aussi que nous, étant passés de la mort à la vie, étant entrés dans son royaume, le royaume de son Fils bien-aimé, on n'aura plus jamais besoin d'être rachetés. Parce qu'un jour, il va nous emmener, il va nous transformer complètement. Puis ça, moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un peu dans la crainte. On ne veut pas pécher. On pêche encore. On ne veut pas pécher parce qu'on ne veut pas déplaire à notre Sauveur. Mais dans ce jour-là, quand il va nous changer en un instant, en un clin d'œil, on va revêtir l'immortalité, on va revêtir l'incorruptibilité. Jamais plus on va pécher. C'est merveilleux. Vous savez, qu'est-ce que ce serait d'être sauvé, puis s'en aller au ciel, puis de repêcher, puis de retomber? C'est impossible. C'est impossible parce qu'il va nous changer complètement. Non seulement il n'y aura plus le péché autour de nous, mais il n'y aura plus le péché en nous. Puis on va être prêt pour vivre dans la présence de la sainteté de Dieu, le Dieu trois fois saint, celui dont Jean est tombé à ses pieds comme mort, celui dont Ésaïe aussi est tombé à ses pieds comme mort, Daniel, tous ceux qui ont eu une... c'était pas complet comme vision, mais ils ont vu comme une vision de Dieu, ils ont tombé à ses pieds. Mais nous, quand on va le voir, on va être debout devant lui. On va rester debout parce qu'à ce moment-là, puis c'est merveilleux quand il nous dit qu'en un instant, en un clin d'œil, on va te changer. Pourquoi? Parce que le moment d'après, on va être dans sa présence. Puis à ce moment-là, on va être incorruptible, on va être prêt pour vivre avec lui pour l'éternité, puis sa sainteté ne nous écrasera pas. Parce qu'on va être saint aussi. Puis il dit, quand on va le voir, on va être comme lui, parce qu'on va le voir tel qu'il est. Ça va être merveilleux. Donc, son œuvre est complète et sécure. Ça, c'est ce qu'il a fait en tant que le fils de l'homme, ou le fils d'Adam. Mais maintenant, on voit son titre, le fils de l'homme. Comme on a vu dans Matthieu 18, 11, il dit, « Car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Quand on parle du fils de l'homme, là, ce titre-là est en rapport avec son implication dans les affaires avec les hommes. C'est son implication avec l'homme ici. Ce titre nous parle de sa proximité. C'est le Seigneur Jésus qui souvent utilise ce terme-là pour lui-même. Il s'appelle le Fils de l'homme. On sait que dans l'Ancien Testament, il nous est dit, dans les psaumes, qu'il trouvait son plaisir avec les fils de l'homme, jouant sur le globe de sa terre. Donc, le Seigneur Jésus trouve son plaisir avec les fils de l'homme, mais étant le Dieu trois fois saint, puis nous, on est des pécheurs, parce que quand il nous avait créés, Dieu venait dans le jardin pour communier avec Adam. Mais quand le péché est arrivé, il a été chassé du jardin d'Éden avec un ange, avec une épée flamboyante pour l'empêcher de revenir. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, il désire être avec les hommes. Il s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Puis ça parle de sa proximité. C'est que Dieu n'est plus un Dieu éloigné dans le ciel. Vous savez, avant d'être sauvé, Probablement, vous autres, vous pensiez de la même façon. Moi, je me disais, mais comment rejoindre ce Dieu-là qui est si loin dans le ciel? Il était tellement distant de nous autres, puis ça m'a frappé quand j'étais sauvé. Je me disais, on essayait d'aller le rejoindre si loin dans le ciel quand lui est venu jusqu'à nous. Puis il est venu nous rejoindre où on était. C'est la proximité. Le Seigneur Jésus est venu tellement proche de nous autres là, qu'on pouvait y cracher au visage. Ça, c'est quelque chose. On pouvait y arracher la barbe. Il s'est laissé traiter comme ça. Il est venu tellement proche de nous autres. Il aurait pu être sur un nuage dans le ciel, on n'aurait jamais pu le toucher, puis il nous aurait parlé, mais il s'est fait homme. Il était. Puis même, moi, ça, vous savez, quand une de mes filles qui est née, là, la dernière, là, on devient émotionnel quand un enfant vient au monde. Hein. Puis quand, à un moment donné, quand elle est née, là, elle n'a pas respiré tout de suite. Puis, à cause des sécrétions, là, ça a pris un petit peu de temps. Puis vous savez, le premier respire, là, le visage allume. Moi, j'ai toujours aimé voir ça. Là. Je ne voulais pas manquer ça pour rien. Mais le visage allume, l'expression vient, la couleur vient. Puis, mais juste avant qu'ils l'apprennent, ils l'ont pris tout de suite pour aller l'amener puis enlever les sécrétions là, avec un aspirateur. Puis, mais ma femme, elle n'avait pas entendu pleurer. Puis elle disait, elle pleure pas, elle pleure pas. Puis j'ai dit, Denise, fais-toi-en pas. Elle a pris un petit respire. J'avais vu allumer. J'avais rentré un peu d'air dans ses poumons, puis elle avait allumé. Mais je me suis dit, le Seigneur Jésus a passé par là. C'est quelque chose. Le Seigneur Jésus, sa proximité, comment qui est venu près de nous, là. Mais dans cette proximité-là, là, il est directement impliqué dans les affaires des hommes. Dans le nouveau dictionnaire Unger, dictionnaire biblique, là, il dit « Ce terme est uniformément utilisé par rapport à Christ en connexion avec sa mission. » Quand il est venu ici sur la terre, il est venu comme le Fils de l'homme. Puis il dit dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ça, c'est sa mission. Le Fils de l'homme, là, c'est en rapport avec sa mission. C'est directement connecté avec sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu 12, 40, le Seigneur Jésus a dit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, » puis on sait que ça représente quoi? Le Seigneur a dit que ça représentait sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, parce qu'il dit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Dans Matthieu 20, 18, il dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, » disait ça à ses disciples, « et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, il le condamnera à mort. » Il s'appelle, en parlant de ces événements-là, il se nomme lui-même le Fils de l'homme. Dans Matthieu 26, 2, il dit, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 3 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Donc, en rapport avec sa mission, sa mort et sa résurrection, puis aussi sa deuxième venue, en relation avec sa deuxième venue. On va aller dans Matthieu 24, les versets 37 à 44. Matthieu 24, les versets 37 à 44. OK, verset 37. Le Seigneur Jésus, il dit ici, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Puis là, il dit, « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, il est en relation avec sa mission de venir chercher et sauver ce qui était perdu, en relation avec sa mort et sa résurrection, en relation aussi avec sa deuxième venue. Dans Luc 12, 40, il dit, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Puis, ensuite de ça, il dit à Nathanaël, il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur, au-dessus du Fils de l'homme. » Donc, le Fils de l'homme, il dit à Nathanaël, comme Fils de l'homme, ici sur la terre, puis quand il parle des anges de Dieu qui montent et descendent sur le Fils de l'homme, bien, il se réfère à la vision de Jacob, hein, quand il a vu une échelle qui était posée sur la terre et dont le sommet touchait, montait jusque dans les cieux, puis les anges montaient et descendaient sur cette échelle-là. C'est lui, le Seigneur, il prend ce type-là pour parler de lui-même. L'échelle était posée sur la terre, mais elle rejoignait les cieux. Puis les anges, ils ne descendaient pas, ils montaient, puis ils descendaient sur le Fils de l'homme. On voit, le Seigneur, son désir était avec les fils de l'homme, son plaisir était avec les fils de l'homme. Mais comme Fils de l'homme aussi, il va aussi accomplir le jugement. Puis c'est pour ça qu'il dit dans Jean 5, 27, il dit, « Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » À cause de sa proximité, à cause de son œuvre, à cause de tout ce qu'il a accompli en tant que Fils de l'homme, impliqué dans les affaires des hommes, c'est lui aussi qui va juger. Tout le jugement a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, on le voit comme le fils d'Abraham. Dans la généalogie, on a vu généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Comme fils d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a rendu le salut possible. L'accès au salut pour nous est devenu possible parce qu'il est le fils d'Abraham. C'est l'accès au salut. C'est bien beau tout le plan de rédemption que Dieu a accompli d'une façon merveilleuse. Puis, vous savez, c'est un peu ça quand on en vient à être sauvé, hein, quand on comprend le salut de Dieu, que c'est dans une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ, on se demande comment se l'approprier, comment le recevoir. Abraham, comment il a reçu le salut de Dieu? Il l'a reçu par la foi. Ça, c'est la foi, on reçoit. Donc, il est devenu accessible à travers Abraham. Et Abraham étant un type, parce que vous savez, Abraham a reçu des promesses que Dieu lui a faites. Puis que la réponse d'Abraham a été quoi à ces promesses-là? Bien, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc, il est un prototype pour nous autres de celui, comment on s'approprie le salut de Dieu. On le reçoit par la foi. Dieu a fait la promesse. On prend connaissance de la promesse de Dieu dans la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Abraham. Dieu le dit. Vous savez, quand on dit « je suis sauvé », vous rappelez-vous la première fois que vous avez dit « je suis sauvé » Moi, je n'avais jamais dit ça avant, là, parce que « je suis sauvé autant que toi », des affaires de même, mais dire « je suis sauvé », là, de dire « moi, je me souviens quand j'ai dit ça, « je suis sauvé », là, j'ai dit « wow ». Mais comment je pouvais dire ça? Je n'étais pas mieux que le moment d'avant. Mais c'est parce que j'avais mis ma confiance dans ce que Dieu avait dit. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Celui qui a le Fils a la vie. C'est Dieu qui l'avait promis. Puis là, je peux dire maintenant, puis on peut dire ça, je suis sauvé. Les gens disent, ah, t'es prétentieux. Non, pas en tout. Pas prétentieux du tout. Toi, si tu penses que tu vas être sauvé, t'es prétentieux. Mais moi, je sais que je suis un pécheur perdu, je n'aurais jamais pu être sauvé, mais par l'œuvre parfaite de Christ, j'ai cru à sa promesse, celui qui a le Fils a la vie, j'ai le Fils de Dieu par la foi, j'ai mis ma foi en lui, j'ai la vie éternelle, puis je suis certain. Il y avait quelqu'un une fois qui me disait, ah, il dit, on va se voir là. T'es-tu sûr qu'à 100%? Ben, 99,9. Ben, j'ai dit, il y avait 0,1% des chances que je ne te voie pas. Mais j'ai dit, moi, je suis sûr que je vais être là. Si toi, tu ne seras pas là, moi, je vais être là parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis ma foi en lui comme Abraham a mis sa foi dans les promesses de Dieu. Vous savez, Abraham est devenu le père, puis il est devenu le père de tous les croyants. Même ceux-là qui sont nés avant lui, même d'Adam qui a cru. Mais c'est parce que lui, Abraham, il est utilisé comme le type. En type, c'est comment recevoir la promesse de Dieu. La promesse, c'était quoi? C'était quelque chose d'impossible. Il était un homme qui était rendu vieux, puis sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Puis Dieu, il a dit qu'elle allait avoir une postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Puis Abraham a cru. Puis il l'a eu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, le Seigneur Jésus a dit. Puis il a eu, Abraham, la promesse. Comment? Bien, il l'a eu à travers sa postérité. C'est dans sa postérité qu'Abraham a eu la promesse. La promesse était faite à sa postérité. Isaac, qui est né miraculeusement, c'est impossible. Puis ça, Dieu l'a fait. Ça, c'est vraiment l'impossibilité, mais Dieu, c'est devenu possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Puis il y a eu une postérité, mais Isaac étant né de cette façon-là, il est né d'une façon miraculeuse. Mais le Seigneur Jésus est né d'une façon miraculeuse. On en a parlé, la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ, il est né d'une façon miraculeuse. Puis, dans Galates 3,16, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham est bonne pour lui, mais elle est bonne pour sa descendance aussi. Et il n'est pas dit « et aux descendances ». On sait qu'Abraham, il y a eu des enfants par Sarah, il y a eu Isaac par Sarah, mais il y a eu des enfants par Kétura, puis il y a eu un enfant aussi par Agar. Mais c'était sa descendance, c'était Isaac qui était en vue. C'était en vue quoi? C'était dans le Seigneur Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Donc, à sa descendance, comme s'il s'agissait de plusieurs, aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Et quand nous, on a cru comme Abraham, on a été inclus dans ses promesses, ou on a été inclus en Christ. Vous savez, la position en Christ, ça nous donne tout un privilège. Toutes les bénédictions d'Éphésiens 1, là, c'est tout en Christ. On est entré dans cette promesse-là. Mais quand on a cru, comme Abraham, on a cru, on a été inclus dans ses promesses ou en Christ. Puis Galates 3,20 nous dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance. Il a dit, il y en a juste une descendance. Puis là, il dit, si vous êtes à Christ, là, vous êtes donc la descendance qui est en question. Pas les descendants, mais la descendance. Vous faites partie de la descendance, héritier selon la promesse. Donc, c'est vraiment merveilleux. Hein? On est maintenant la descendance qui est en question dans la promesse. Si la promesse n'était pas faite pour nous autres, comment qu'on croirait? Ça ne serait pas bon. Mais là, on se voit comme on est la descendance d'Abraham à qui la promesse avait été faite. Donc, c'est pour nous autres que la promesse a été faite. On peut y croire. Si Dieu il l'a dit, nous autres, on est contents. Ça fait l'affaire, on est heureux, on jouit de ce bonheur-là d'être sauvé pour l'éternité avec le Seigneur Jésus. Le temps avance, le jeune de pêche, mais là, après ça, il y a le fils de David. On est entré dans cette promesse-là comme fils parce qu'il est le fils d'Abraham, mais maintenant, il est le fils de David. Puis, comme fils de David, là, bien, il détient le règne pour toujours. On parle d'éternité, là. On vient, d'autres, on a été créé, mais là, on s'en va dans l'éternité. Puis, en étant le fils de David, bien, lui, il détient la bénédiction pour nous autres, pour l'éternité. Dans 2 Samuel 23:5, il dit, « N'en est-il pas ainsi, David parlait, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? David avait une assurance merveilleuse. Il pensait à l'éternité, là. C'était quelque chose d'éternel. C'était une alliance éternelle que Dieu avait faite avec lui. On sait que lui, juste avant, Saül, bien lui, ça s'est arrêté à lui. Mais lui, David, là, il a une alliance avec sa maison pour une alliance éternelle. Mais, vous savez, l'alliance avec David, il y a quand même. Elle dépendait de l'obéissance de ses fils. Parce que dans 1 Roi 2,4, il dit, « Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils... » Quand tu as un « si », il y a une question il y a quelque chose qui peut arriver. Là. « Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Alors, il y a une condition. Il y a un si. Puis, il fallait que les fils marchent. Puis, dans 1 Samuel, c'est toujours le problème, c'est toujours avec les fils. Parce que les fils d'Élie n'ont pas suivi, les fils de Samuel n'ont pas suivi. Puis, tristement, les fils de David n'ont pas suivi non plus. Ils n'ont pas suivi les traces de leur père. Donc, qu'est-ce qui arrive avec la promesse de Dieu? Il parlait d'une alliance éternelle, mais comment ça? Que maintenant, il y a une condition que si ses fils marchent, on sait qu'Israël a connu quoi? Ben, ils ont connu la déportation parce que les fils de David n'ont pas suivi leur père David. Mais comment est-ce que cette alliance-là était supposée d'être éternelle? Comment est-ce qu'elle va pouvoir être éternelle, cette alliance-là? Ben là, c'est parce qu'il va en avoir, il y en a un autre fils de David qui vient. Puis c'est lui qui arrange la chose. Donc, on voit dans Philippiens, au chapitre 2, verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Les fils de David n'ont pas été obéissants, mais celui-là, lui, est obéissant. Puis, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 4, 34, « Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. » Donc, le Seigneur Jésus, lui, est devenu le fils de David qui rendait cette alliance-là éternelle parce que lui est obéissant jusqu'à pour l'éternité. Jamais le Seigneur Jésus, il n'a pas besoin de réveil parce qu'il est le réveil. Puis, le Seigneur Jésus, le fils de David, c'est le fils de David qui est obéissant pour l'éternité, qui garantit l'alliance éternelle. Dans Hébreux 1, versets 8 à 9, « Mais il a dit au Fils, au Seigneur Jésus, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Donc, on a le Fils parfait, là. On a le Fils obéissant pour l'éternité qui jamais va perdre la bénédiction. Donc, en tant que fils de David, là, ben, il nous garantit que c'est éternel, que c'est lui qui amène l'éternité dans cette belle bénédiction-là qu'on a d'être avec lui pour l'éternité. Donc, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un don merveilleux. Il nous a donné un fils, nous est donné. Le fils de Dieu, le fils d'Adam. Le fils d'Adam, il a participé au sang et à la chair pour être le sacrifice pour nos péchés. Il est le fils de l'homme. Il est venu dans notre proximité, dans sa relation avec nous. Il trouvait son plaisir avec nous, puis il a accompli une œuvre de salut pour nous. Le fils d'Abraham, bien, il nous a montré comment accéder. C'était l'accès à toute cette bénédiction-là, puis c'est par la foi. Pas par les œuvres, fait que personne ne se glorifie. Puis ensuite de ça, bien, c'est le fils de David. Ben, c'est lui qui possède, à cause de sa justice à lui, à cause de son obéissance, c'est pas à cause de votre obéissance puis de la mienne, mais à cause de son obéissance à lui, eh bien, c'est une alliance éternelle. C'est vraiment merveilleux. Quel don! Comment c'est précieux que Dieu nous ait donné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Puis, on va le bénir éternellement, je peux vous garantir de ça. Vous êtes sauvés ici aujourd'hui, vous allez le bénir pour l'éternité, puis on va être ensemble. Puis comme on disait plus tôt, on va être beau dans ce jour-là. Puis on va bien chanter. On va chanter à la gloire du Seigneur pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, comme tu as fait des grandes choses pour nous, comme Seigneur on répond. Oui, on peut dire, nous t'aimons parce que toi tu nous as aimés le premier. Seigneur, tu nous as donné un si grand don, ton Fils, qui est venu ici sur la terre. Puis Seigneur, on te remercie parce que tu nous as inclus dans tout cela. Puis on va louer ton nom présentement, puis pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.